à la recherche de la paix. Un programme de la Voix de la Charité présenté par sœur Brigitte May, fondatrice de la maison de prière Abana au Liban.
Salam alaikum, ya chers auditeurs. On s'était quitté sur l'étape de purification nécessaire à Marie-Madeleine, de laquelle Jésus expulsa sept démons et qui avait besoin d'une convalescence pour changer de mentalité. Pour suivre Jésus, il fallait que son cœur soit transformé. Sa conduite changea en un instant, mais elle eut besoin de toute sa vie pour être transformé totalement. Jésus la polit petit à petit jusqu'à en faire la première évangélisatrice à annoncer la résurrection. Si on lave les aliments et on les désinfecte parfois, ainsi nous devons être purifiés intérieur et extérieur pour ne pas contaminer les autres, car nous sommes un pain qu'ils vont désormais manger. Quand on comprend ainsi le plan de Dieu, nous passons par le feu de la purification, comme les trois jeunes gens du livre de Daniel qui chantaient et louaient Dieu. Le feu ne les détruisit pas, mais leur permit de prouver la puissance et la sagesse de leur Dieu. Quand nous découvrons cela, il ne faut plus nous considérer coupables. Nos rancœurs s'évanouissent. La paix revient dans nos cœurs et on entonne un chant de victoire d'avoir été libéré du feu dévastateur. Cette purification sera d'autant plus profonde que sera grande la mission à laquelle nous appelle le Seigneur. D'autant plus profonde sera la purification que le Seigneur réalise en nous, que sera important son plan sur notre vie. Une pierre est d'autant plus polie qu'on veut la rendre plus précieuse. C'est l'ultime raison de la purification que le Seigneur veut faire en nous et que malheureusement trop peu comprennent et donc rejettent ou résistent. Tous les grands prophètes sont passés par ce feu de la purification. Isaïe dut être purifié par la braise. Jérémie souffrit la persécution des siens. Ézéchiel fut jugé fou et impertinent. Le prêtre Amasias critiqua le ministère du prophète Amos. Mais l'exemple le plus évident est celui de Saul de Tarse. Peu ont été aussi touchés par la purification que lui. En bon pharisien et strict accomplisseur de la loi, il était intouchable et jouissait de tous les avantages de la structure religieuse. Mais lorsqu'il accepta le Christ Jésus comme son Sauveur et Seigneur, il renonça à tout autre avantage humain ou religieux. Il perdit ainsi immédiatement son prestige face à ses anciens collègues qui le traitèrent de traître et l'expulsèrent de la synagogue. Et le pire, il ne fut pas accepté par les chrétiens de Jérusalem qui ne crurent pas à la sincérité de sa conversion. Et pour ne pas avoir de problème, ils l'éloignèrent de la communauté. Lui, qui avait reçu directement de Jésus-Christ la charge d'évangéliser les rois et les princes, il dut passer par une longue période de désintoxication de la loi dans le désert d'Arabie, puis de solitude à Tarse. Pour devenir le plus grand évangélisateur de toute l'Église, il dut être purifié durant de longues années et de diverses manières, avant de commencer à accomplir sa mission. La vocation spéciale à laquelle il avait été directement appelé exigeait une grande purification. Souvent nous sommes bâillonnés et entravés dans notre ministère ou dans notre vocation, parce que le Seigneur, à travers cela, nous prépare pour une mission beaucoup plus importante. Si nous nous échappions de ce brasier ardent, nous perdrions l'occasion d'être forgés. Et notre attitude doit être de nous abandonner. La confiance illimitée dans le Seigneur doit nous mener à une attitude d'abandon volontaire au plan divin. Le plus important, cependant, n'est pas de nous abandonner, mais de nous abandonner sans condition. Généralement, nous mettons des obstacles à cette reddition. Nous espérons recevoir quelque chose en échange, ou nous nous réservons une partie de l'offrande. Si notre abandon n'est pas inconditionnel, il ne sert à rien. De même que l'argile s'abandonne entre les mains du potier pour devenir un vase nouveau, de même nous devons nous remettre entre les mains du Seigneur pour qu'il fasse de nous des créatures nouvelles à son image et à sa ressemblance. Il s'agit de signer à Dieu un chèque en blanc pour qu'il fasse de nous ce qui lui plaît. Signer le chèque en blanc pour qu'il fasse de nous ce qui lui plaît, signer le chèque en blanc, revient à lui donner notre oui à toute chose, comme Marie qui répondit « Qu'il me soit fait selon ta parole ». De même qu'en entrant dans la salle d'opération, nous nous abandonnons totalement dans les mains du chirurgien pour qu'il coupe, retranche ou transplante ce qui est nécessaire. De même, nous devons nous remettre entre les mains du médecin divin pour qu'il fasse de nous ce qu'il désire. Confions-nous en lui et acceptons son plan de façon inconditionnelle. Il désire accomplir une œuvre merveilleuse, si belle qu'il est prêt à transplanter notre cœur. Je cite Ézéchiel 36, 26, 27. « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai votre cœur de chair. » J'ôterai de votre cœur de chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair pour que vous marchiez selon mes lois. Il n'est pas question que le Seigneur nous dépouille ou nous violente. Il faut que nous consentions volontairement. Le Seigneur ne veut pas de l'amour d'un esclave. Il veut l'amour d'un homme libre qui le choisit volontairement, car là sera le vrai engagement d'éternité. Si nous ne nous dépouillons pas volontairement, nous allons subir des blessures fatales qui vont nous conduire à la névrose ou à la schizophrénie. Mais quand nous ne sommes pas ligotés à quelque chose, nous sommes pauvres, et un pauvre n'a rien à perdre, car il a tout donné. Le dépouillement volontaire est la condition de l'abandon, et l'abandon est, comme le chante la petite Thérèse, le fruit délicieux de l'amour, le chemin de la paix et du bonheur. Il n'y a pas d'autre chemin pour vivre en paix. Ceux qui essaient de s'attacher à quelque chose, à des circonstances, à une personne, sont esclaves de cette possession. Ils sont possédés et non plus libres pour aimer avec Jésus. Voici la quatrième lumière dans l'initiation des disciples par le Christ. Il donna le pain. Il le donna. Une fois que le pain a été pris dans les mains, béni et rompu, on le partage. Il ne reste pas dans les mains de Jésus, mais on le donne aux autres. Nous ne pouvons pas rester toute notre vie au sommet du Tabor, ni planter nos tentes pour nous établir définitivement près de Jésus. L'Évangile explique que Jésus appela ses disciples pour qu'ils soient avec lui et pour ensuite les envoyer évangéliser. Celui qui a été à côté de Jésus ne peut plus rester inactif, mais il doit se donner aux autres. Le signe qui nous garantit que nous avons rencontré Jésus-Christ et que nous allons chercher les autres pour qu'eux aussi le connaissent et le suivent. Celui qui l'a découvert partage son trésor, sa trouvaille avec les autres et ne peut plus s'arrêter de parler de ce qu'il a vécu. Je cite, quand André rencontra Jésus dans le désert, il le suivit et resta avec lui toute la soirée et toute la nuit. Mais au matin, il se leva de très bonne heure et alla chercher son frère Simon pour l'amener à Jésus. Ainsi, plus nous aurons été rompus, plus nous pourrons être partagés. Plus nous aurons été purifiés, plus nous pourrons atteindre de personnes. Un pain entier peut être consommé par une seule personne. Mais autant on le rompra, autant pourront en profiter. C'est la fin de la purification, la multiplication. Le Seigneur veut nous multiplier, c'est pour cela qu'il nous donne. Il veut que nous en atteignions beaucoup. Nous apportons les 5 pains et les 2 poissons que nous avons, et le Seigneur les multiplie. C'est lui qui accomplit le miracle, mais toujours avec notre collaboration. Notre fécondité ne dépend pas de nos qualités, mais c'est Dieu qui fait croître. Il nous est demandé de remplir nos jarres avec l'eau que nous avons, l'eau d'ici. Et c'est lui qui fera le miracle de la transformation, mais en partant de ce que nous aurons présenté, de l'eau d'ici à l'au-delà. Prions. Donc, chers auditeurs, acceptons d'être un pain multiplié qui nourrira et un vin nouveau qui réjouira le cœur, parce que le Seigneur a fait un miracle en nous et avec nous. Notre attitude doit alors être le détachement. Notre Dieu est un, déclare mille et une fois la Bible. Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de lui. C'est pour cela qu'il n'admet aucune autre idole qui vienne prendre sa place. Notre Dieu, puisqu'il est unique, n'accepte pas de partager notre cœur avec rien ni quiconque. C'est pour cela qu'il nous faut absolument nous détacher de tout ce qui peut nous entraver cette suprématie. Dans le détachement, ce qui compte n'est pas la quantité de ce que nous donnons, mais l'abandon total. Je cite, « Un jour, Jésus se trouvait devant le lieu des aumônes, là où venaient les riches au luxe ostentatoire, qui déposaient des offrandes conséquentes. S'avança alors une pauvre veuve, humble et silencieuse, qui ne déposa que 2 piécettes. Jésus profita de l'occasion pour enseigner à ses disciples. Cette pauvre veuve a donné plus que tous les autres, car elle a donné tout ce qu'elle avait. Généralement, les hommes mesurent leurs offrandes à la quantité de ce qu'ils donnent. Celui qui donne le plus est considéré comme le meilleur. Mais l'offrandomètre divin ne détecte pas ce qui est sorti de la bourse, mais bien plutôt ce qui y reste encore. Le détachement affectif et effectif est une façon pour Dieu de nous purifier de tous ces attachements qui nous empêchent de vivre l'exclusivité avec notre Dieu. Il ne s'agit pas simplement de nous détacher, mais d'entrer dans une relation d'exclusivité avec lui. Les paraboles de l'Évangile nous montrent clairement cet aspect. Celui qui a trouvé la perle précieuse vend tous ses autres biens pour acquérir l'unique perle de valeur. Il faut remarquer que l'homme ne se détache pas pour trouver, mais parce qu'il l'a trouvé. Il ne s'agit donc pas de nous détacher de nos biens pour trouver le Seigneur. Le processus est inverse. Celui qui découvre le Seigneur trouve que toutes les choses pâlissent à sa lumière. Si une nuit nous sommes dans une pièce avec la lumière allumée, nous ne verrons rien des petites lumières des montagnes. Mais si nous éteignons cette lumière, au même moment commenceront à briller les lumières extérieures. Quand on éteint la lumière du Christ, alors on éclaire les autres choses. Mais celui qui a le Christ considère tout comme désavantage à cause de la supériorité de la connaissance de Jésus-Christ notre Seigneur. Philippiens 3:5-8. De cette façon, nous avons la parfaite perspective. Il ne s'agit pas de déprécier les choses ou les personnes, mais d'apprécier ce qui en vérité a de la valeur aux yeux du Seigneur. Tout est beau et tout est bon sous le soleil. Il faut se servir des choses sans s'y asservir. Mais parfois, le Seigneur nous détache de façon brusque de certaines choses pour que nous nous rendions compte que nous n'en avions pas tant besoin. Dans l'histoire du salut, il y a des exils qui nous déracinent de tout ce que nous sommes ou avons. Et ce sont précisément ces détachements qui nous font grandir dans la liberté et la disponibilité. C'est pour cela que tout au long de la Bible, Dieu nous demande toujours un type de renoncement. Jacob doit quitter sa famille et fuir loin des siens. Joseph, déporté par ses frères, va vers un pays inconnu. Moïse doit renoncer à ses sécurités humaines. Élie part au désert. Si nous sommes dans la main du Seigneur et que nous ne nous détachons pas de ces liens, alors le Seigneur va recourir à l'exil pour que nous puissions être véritablement siens. Les liens nous ramènent au désert. Le comble du détachement, c'est lorsque le Seigneur nous demande non seulement les choses qui peuvent nous séparer de lui, mais même les dons que lui-même nous a faits comme preuve de sa fidélité. Dans cette étape, il ne s'agit pas de laisser seulement les péchés et les vices, mais de ne plus dépendre d'aucun don de Dieu. On en arrive alors à la frontière de la glorieuse liberté des fils de Dieu. Dieu seul suffit. Je cite Abraham qui avait tout quitté, tout abandonné au Seigneur, sa tente, sa famille, ses sécurités, son passé et son futur. Il avait renoncé aux fausses idoles et il le servait désormais, le vrai Dieu. Mais un jour, son Dieu lui demanda l'incroyable. « Livre-moi ton fils, ton unique, celui que je t'ai donné comme accomplissement de ma promesse. » Il ne lui a pas été demandé de renoncer à quelque chose de mauvais, mais de livrer le fils de la promesse, le don de Dieu, le témoin de la fidélité divine. À tous ceux qui persévèrent dans la vie de l'Esprit, Dieu demande un jour le fils de la promesse. Pas parce qu'il serait mauvais, au contraire, pour qu'on ne dépende pas des dons de Dieu, mais uniquement du Dieu des dons. Dans cette étape, la communication avec Dieu ne se fait pas à travers un quelconque moyen, mais on arrive à une étape de communion intime et profonde. Il n'y a plus communication, mais communion. Plus d'être de consommation, mais de communion. On ne dépend plus d'une grâce, d'une consolation ou d'une récompense, mais on réalise que ce qui importe le plus, c'est la relation de foi avec Dieu. On arrive alors à la cinquième lumière dans l'initiation des disciples par le Christ. Ceci est mon corps. Comme le pain devient le corps de Jésus-Christ, nous sommes transformés en lui. Le but de la formation, c'est la transformation. La formation d'un apôtre n'est finie que lorsqu'il est Jésus-Christ. En Syrie, il y a de nombreux artisans qui travaillent l'argent très précieusement. Quand un de ces artistes fait un plateau d'argent, il le polit attentivement jusqu'à ce que sa propre image se reflète dans le miroir limpide du métal. C'est alors seulement qu'il considère son travail fini. De même en notre vie. L'Esprit Saint ne s'arrête pas de travailler en nous jusqu'à ce que nous soyons devenus l'image de Jésus-Christ. Si le but du disciple est de se configurer à l'image de son maître, notre objectif ne peut être autre que d'arriver à être comme Jésus. Comme Paul, qui un jour s'exclama, je le cite, « Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Dieu veut que tous ensemble nous formions le corps de son Fils, étant membres les uns des autres, mais unis par une seule foi, avec une diversité de charismes, mais animés par un seul et unique esprit, avec une diversité de ministères, mais le même Seigneur. Dans une diversité d'opérations, mais un seul Dieu qui opère tout en tous. Nous devons vivre en corps du Christ, étant plusieurs membres, avec diversité de fonctions, et étant membres les uns des autres. Nous cherchons tous la croissance du corps, comme tel, sans aucun avantage personnel, même spirituel. Ce que Paul acceptait le moins dans les communautés était la division, car c'était pour lui un attentat direct contre le Christ en personne. Et donc, comme l'on dit avec Jésus, notre Père, et non pas mon Père, nous devenons frères et sœurs en Christ, et nous pouvons et devons partager avec tous ce que nous sommes et ce que nous avons. Notre attitude ici sera donc de former un corps, celui de Jésus-Christ, l'Église, sa maison, son unique maison. Et tous, aussi petits que nous sommes, aussi insignifiants que nous paraissions, nous sommes nécessaires pour construire l'unité de l'Église. Chacun de nous en est la pierre vivante. Ensemble, cette semaine, soyons les bâtisseurs de cette unité de l'Église et soyons ennemis de toute division. Sainte semaine. Amen.
À la recherche de la paix. Un programme de la Voix de la Charité présenté par sœur Brigitte May, fondatrice de la maison de prière à Banin, au Liban.